Vous écoutez
RMC.
RMC.
Hier soir, je me suis un peu reposé. Ah. Je me suis refait le Chelsea-Liverpool.
Ce qui est formidable dans le football, c'est que l'avis du chauffeur de taxi vaut celui de n'importe lequel de ses clients.
Quelle est la différence entre un poussin et un canari?
Le canari, c'est celui du canard, non?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. Bienvenue dans Génération After, comme tous les soirs, de 20h à 22h autour de la table ce soir. Kevin Diaz, bonsoir Kevin.
Salut à tous.
En face de toi, l'ambassadeur de la Wally Generation. La marque a été déposée. Royalties pour Stéphane Guy qui a lancé cette
simplicité.
Nouvelle appellation. Bonsoir Walid Echarchour.
Salut ma génération, salut Nico, salut à tous.
Ça y est, c'est parti. Ça y est, on y va. Comment on peut la définir, génération Walid? Ce serait quoi? C'est 12 matchs par week-end.
Oui.
3-4 qu'on visait une deuxième fois le dimanche en fin de journée.
Oui, pas de Coupe de France et pas de match au stade.
Non, surtout pas mettre un match au stade, c'est mieux à la maison.
Mais on est ouvert, on peut.
Et puis une parenthèse de 2 heures à Paris pour acheter une nouvelle pompe sur les grands boulevards au Guéret-Lafayette, voilà. Avec non. Madame aussi.
Oui.
C'est la seule pause du week-end.
Oui.
Et sinon, c'est 12 matchs.
Oui, c'est 12 matchs.
Bonsoir Romain Canuti.
Bonsoir Nico, bonsoir à tous et bonsoir à Inès, une petite auditrice de l'After.
D'accord.
Qui fête ses 6 ans.
Et elle écoute l'After.
C'est pas mal. Et elle écoute l'After.
Elle a 6 ans. Eh bien, bon anniversaire à toi, Inès.
Bon anniversaire.
Elle pourra appeler, bien sûr, un soir le 32-16, bon. Inès. Hein.
Pourquoi pas? Oui, c'est prévu, je pense.
C'est pas ta fille, hein. On est d'accord. Non. Pourquoi pas, hein. Au programme de Génération After ce soir, enchaînement de matchs et d'affiches. Le PSG est-il armé pour réussir son mois de février démentiel? 20h30, l'avis de Walid, se faire piller, c'est le trophée du club intermédiaire. Un avis qui va plaire aux supporters lorientais. À 20h40, un invité, cadre de la défense du deuxième de Ligue 1, Jonathan Grady du RC Lens, sera avec nous, l'homme qui est dans son prime à 30 ans. À 21h, la double confrontation au MPSG en février va-t-elle conditionner la deuxième partie de saison de l'Olympique de Marseille? À 21h30, avis de Kevin Diaz qui ne comprend pas le mercato lyonnais. On donnera également, on va les saupoudrer pendant ces 2 heures, les dernières infos mercato, Terem Mofi notamment, tout proche de l'Olympique de Marseille. Et la chronique de Jimmy Brown à 21h45, qui sera question de l'événement du jour, le retour de Daniel Riolo sur Twitter, messieurs, oui.
Ah oui,
un événement.
C'est vrai que j'ai vu ça, ouais.
Elon est intervenu, ouais. Apparemment.
Faudrait savoir qu'est-ce que pense la génération de Walid.
Mais pas de certif, attention.
Ouais, sans la certif.
Pas certifié.
C'est une petite humiliation.
C'est payant maintenant la certification. Vous savez ça,
ah bon,
faut payer apparemment.
Tout le monde peut avoir la certif.
Il y a des critères. Lui, là, depuis la création de Twitter, déjà, le petit encoche bleu, c'est Gilbert Bribois. Bonsoir, Gilbert.
Salut, les gars.
Salut, Gilbert.
Salut, Gilbert.
T'as pas payé, toi, c'était cadeau.
Non, à l'époque, c'était. Comment ça s'était passé?
C'est le service com d'RMC qui avait.
Ah oui, il y a eu ça aussi, effectivement.
Ah, peut-être, oui.
Tu as donné des directives à Daniel pour 2023, sur Twitter?
C'est un grand garçon. On est plus âgé que moi, donc
oui, c'est. Voilà. Oui.
C'est une bonne nouvelle, le retour de Daniel sur Twitter, Gilbert.
La question est, pour combien de temps?
Pour combien de temps va-t-il récidiver? La grande c'est ça. Question. De quoi parle-t-on à partir de 22h dans l'After, Gilbert?
Florent Gautreau veut absolument parler du capitaine du PSG, donc de Marquinhos et de Mbappé. Il a un avis assez clair sur la question sur qui doit être capitaine. Je pense que vous l'avez deviné sans que je vous le dise. Il veut le développer, ça. Daniel veut parler du futur de l'Olympique lyonnais. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'OL ce soir. On parlera également foot allemand parce qu'on joue ce soir en Bundesliga. Paulo Breitner sera avec nous. Et puis une page d'histoire. Vous allez vous régaler. On a un historien qui vient et qui a écrit un livre passionnant qui fait le lien entre l'histoire contemporaine de la France et les matchs des Bleus. Vous allez voir que c'est assez étonnant. À chaque fois, il y a des matchs des Bleus un peu marqueurs de leur époque qui correspondent
à.
Ah non, je te dis pas.
Tu ne dis pas, tu teases. Voilà.
Exactement. 22h tout à l'heure, si vous voulez tout savoir.
Ok, c'est ça. Sera...
Sinon, si la génération Walid, c'est de dire que finalement, le trophée d'un club, c'est de vendre plutôt que gagner une coupe, j'adhère pas à cette génération. C'est une génération pourrie.
Et bien, Gilbert, écoutez.
Sur chaque avis, à chaque fois.
Quelle génération, mais vérolée, c'est incroyable.
Non, écoute, Gilbert, à 20h.
Choc générationnel. Écoute, à 20h, on en parlera. Merci, Gilbert, à 22h.
Tout à l'heure.
Dans l'After, vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live sur Twitter et l'application RMC Sport Direct Studio pour envoyer vos commentaires également, vous êtes très nombreux à le faire chaque soir. C'est donc parti pour Génération After jusqu'à 22h. Le PSG est-il armé pour réussir son mois de février? C'est même un peu plus que février. Voici le détail, les gars. PSG Reims un dimanche pour finir janvier, puis le mois de février, donc Montpellier PSG. 3 ou 4 jours plus tard, PSG Toulouse. 3 jours plus tard, OM PSG, 8e de finale de Coupe de France. 4 jours plus tard, Monaco PSG en Ligue 1. 3 jours plus tard, PSG Bayern Munich, 8e allée de Ligue des Champions. 5 jours plus tard, PSG Lille. Une semaine plus tard, OM PSG en Ligue 1. Potentiel quart de finale de Coupe de France autour du 1er mars. 4 jours plus tard, PSG Nantes. Et 3 jours plus tard, le 8 mars, Bayern Munich, Paris Saint-Germain. Je repose la question et vous nous appelez au 32-16, supporters du Paris Saint-Germain. Le PSG est-il armé pour réussir son mois de février? Cette question, on se la pose évidemment compte tenu de la forme des Parisiens actuellement. Forme disparate des uns et des autres à Paris, d'un effectif pas si profond, de remplaçants pas au niveau. On vous attend au 32-16. Qui veut prendre la parole? Commençons avec toi, Kevin.
Écoute, moi je pense en effet que le Paris Saint-Germain est armé pour ce mois de février. Maintenant, ça dépend parce que il va y avoir aussi la confrontation pour commencer, je pense, contre l'OM en Coupe de France et ça, moi j'ai envie de le voir. J'ai envie de l'avoir déjà cette confrontation parce que je vais vous parler d'une chose qui est l'arbitrage vidéo ou plutôt l'absence d'arbitrage vidéo et de la VAR dans ce match Olympique de Marseille contre le Paris Saint-Germain et je trouve que ça va nous amener un peu au football d'antan, il n'y a pas si longtemps mais allez disons de il y a 4, 5, 6 ans où il peut y avoir de l'intensité, où il peut y avoir des duels mais aussi on va pouvoir fêter un but sans demander si on va y revenir une minute après etc. On sait que l'équipe de l'OM, c'est une équipe qui met beaucoup d'intensité.
Ça, on fera le débat tout à l'heure sur Marseille, oui, justement, Kevin.
Mais justement.
Juste sur la série, l'enchaînement des matchs pour le PSG.
Je disais juste que ce match-là, je pense qu'il va lancer cette série. Donc, on en parlera tout à l'heure, si vous voulez. Mais ensuite, il y a l'enchaînement des matchs avec la double confrontation contre le Bayern Munich, qui est une des trois meilleures équipes en Europe, même si on sait qu'avec Nagelsmann, on peut s'attendre à du football total et il va y avoir aussi des espaces pour Kylian Mbappé et les Parisiens. Mais. En tout cas, après cette période, on va savoir. On va savoir ce dont est fait le Paris Saint-Germain, défensivement, offensivement, au niveau du pressing. Est-ce qu'ils sont capables d'allumer le fameux interrupteur dont parle Daniel depuis des années, c'est-à-dire de enfin enclencher la machine grande équipe qui est vraiment présente justement au mois de février. Alors on peut me dire, tiens, est-ce que il faut pas faire venir Skriniar tout de suite pour avoir un peu plus de profondeur de banc, parce que il faut voir est-ce que Kimpembe sera apte, est-ce que Nuno Mendes va pouvoir enchaîner les matchs, lui qui s'est quand même souvent blessé cette saison malheureusement. Voilà, il y a quelques petits paramètres à des postes clés, mais pour le reste, j'espère pour le Paris Saint-Germain qu'ils sont prêts.
Non, mais on fait ce
10 matchs en 39 jours pour le PSG. On va passer en détail également l'effectif parisien. Vous me direz dans un instant, et pour nous appeler au 32-16, quels sont les joueurs fiables, viables pour ce mois de février, et on évoquera les remplaçants aussi.
Juste, Nico, on fait ce débat-là, c'est juste pour comprendre, hein. On pose les bases du débat et après on développe. On fait ce débat parce que l'actualité était très chargée sur les précédentes semaines et c'est pour ça qu'on l'a pas traité. On est d'accord parce que c'est pas un match contre l'Olympique de Marseille en Coupe de France qui change d'un coup les perspectives. Il peut être très important pour les supporteurs de l'OM, non, mais pour Paris c'est qu'un match.
Ouais, mais Romain, tu prends une claque contre Marseille?
Tu perds un titre
oui.
Déjà.
Ouais. Non, déjà, mais tu perds un titre. Non, mais si, comme dit Wally.
Juste quand tu constitues.
Je réponds à ton préambule. Je te dis oui, sûr. Je pense que jouer Marseille en Coupe de France au Vélodrome, au vu de l'état actuel des Marseillais, ça change un peu la perspective des
joueurs. Ça, t'es pas capable de le préparer? Quand tu es dirigeant du Paris Saint-Germain, alors excuse-moi, je vais pas faire une redite de ce que fait du spectacle Daniel Riolo tous les soirs qui redit, mais on nous avait annoncé la révolution l'été. Mais excusez-moi, c'est un peu ça quand même. Quand tu prépares ta saison, tu te dis pas qu'à un moment donné, ça va être chargé au mois de février, qu'il faut être prêt. Tu vois pas cet effectif-là. Pourquoi? Parce que tu es le Paris Saint-Germain, tu as quand même le droit de bouger sur le mercato. On parle d'un renfort défensif. Effectivement, ça serait pas trop. Ils peuvent y penser dès le début.
Oui, mais bon,
si
tu dois défendre les dirigeants du Paris Saint-Germain, tu peux pas penser que Kimpembe, ça fait 3 mois qu'il a pas joué au début de saison, arrivé au mois de février. Tu peux pas te dire, ah, tiens, Nuno Mendes, il a une grosse blessure avec le Portugal et du coup, il vient à peine de reprendre. Il y a quand même des choses. Tu pouvais pas prévoir que Neymar allait se blesser à la Coupe du Monde, etc.
Et début janvier, ils peuvent pas déjà se mettre au boulot. Ah, moi, j'ai l'impression qu'on réagit maintenant.
Même si on sourit souvent sur le fair play financier, il y a quand même fair play financier, sinon t'inquiète pas qu'ils enverraient et qu'ils prendraient des joueurs. Donc ils ont quand même quelques freins pour ne pas pouvoir recruter qui ils veulent.
Ça, justement, ce que je vous dis les gars, c'est au regard de la forme actuelle du PSG, on est le 24 janvier, est-ce que ce PSG, ce mois de février est casse-gueule presque pour le Paris Saint-Germain? C'est ça la question. Est-ce que vous croyez qu'il peut se révéler sur les 10 matchs à venir?
C'est le mois de la vérité, Nico.
Ça oui, on est d'accord là-dessus.
Maintenant, moi,
et la vérité d'aujourd'hui, c'est quoi?
Je te cache pas mon pessimisme. Sur l'arrivée de ce mois charnière pour pour ce Paris Saint-Germain de Galtier. On va voir vraiment qui est qui dans cette équipe, ce que véritablement Galtier a dans le ventre, mais peut-être que ça va très bien fonctionner pour le Paris Saint-Germain, mais pour l'instant les signaux pour moi ne sont pas positifs.
C'est le premier mois de vérité.
Non, il n'y a pas eu que le premier mois de vérité.
Il y a eu 5 mois de compétition, les gars.
Il y a eu quand même 5 mois de compétition. Il y a des tests qui n'ont pas été franchement réussi de la part du Paris Saint-Germain. Ils ont terminé deuxième de Ligue des Champions en faisant 2 matchs nuls contre Benfica. Tous les gros matchs qu'ils ont eu à jouer, notamment en Ligue 1, n'ont soit pas été extraordinaires contre l'Olympique de Marseille à l'aller au Parc des Princes, soit il y a eu contre-performance en niveau résultat. Je prends Rennes, je prends Lens, je prends Monaco à la maison notamment. Il y a un effectif qui est pour moi normalement taillé pour ce genre de calendrier. Mais ça, c'est...
Ça, c'est une vraie question. Est-ce réellement le cas?
Mais ça, c'est le papier. C'est-à-dire que...
Non, c'est pas que le papier. Il y a aussi les résultats, les gars.
Non. Laisse-moi terminer, Kevin. Il y a le papier, mais maintenant, il y a ce qu'on voit sur le terrain. Des remplaçants, des titulaires, des méformes, des blessures, des retours de blessures, parce que ça va commencer à arriver rapidement. On parle du 7 février, du 14 février, et on parle d'enchaînement. Parce que tout à l'heure, tu disais, Romain, est-ce que c'est le match contre Marseille qui change tout? On savait très, très bien... Hein. La semaine dernière, on avait déjà parlé de mois charnière. Sauf que tu rajoutes un déplacement au Vélodrome dans l'une des équipes les plus agréables à suivre en Europe actuellement. Parce que Marseille, c'est le cas. Tous ceux qui regardent les championnats européens, Marseille, aujourd'hui, sont dans les 5-6 équipes les plus agréables à voir jouer en termes de football. Tu vas aller au Vélodrome. Donc, tu vas aller 2 fois au Vélodrome dans ce calendrier-là, en Coupe de France et en championnat. Le championnat, t'es à 3 points de Lens. T'es pas à 10 points, t'as pas un matelas énorme dans ton objectif de gagner la Ligue 1. Donc en fait, tu as la Coupe de France où Galtier va être jugé. Il a dit que ça allait être un objectif. T'as la Ligue des Champions où...
Il a dit que c'était le plus beau des trophées.
Exactement. Donc on va l'attendre au tournant contre l'Olympique de Marseille. Tu vas jouer le Bayern Munich, qui est quand même une équipe qui a fait 18 points en phase de poule. Beaucoup diront, on s'en fout, les phases de poule, c'est les phases de poule. Mais les certitudes quand même sur cette équipe, elles sont là. Il y a une équipe qui progresse, qui travaille. Et surtout, tu vas jouer Monaco 4e. Non mais tu vas avoir un enchaînement.
Mais oui, par rapport à ce que tu dis.
Je répète, depuis le début de saison, entre les remplaçants, la gestion de Galtier par rapport aux remplaçants, la cheville de Neymar, la blessure de Verratti, on ne sait pas quand il va revenir, la blessure de Kimpembe.
Ajoute la forme des remplaçants de Solaire et Kitéké.
Le niveau de Ramos.
Mais ça, c'est le lot des.
Peut-être que le Paris Saint-Germain va réaliser un mois extraordinaire et sera en quart de finale à 10 points du deuxième en Ligue 1 et en quart de finale de Coupe de France.
Mais tu n'y crois pas vraiment.
Mais pour l'instant, la tendance, par rapport à ce que je vois, je ne suis pas optimiste.
Vous nous appelez au 32-16 pour réagir, bien sûr, à ce débat. Est-ce que le PSG est armé pour réussir son mois de février avec Romain Canuti, Walid Acharchour et Kevin Diaz? Vous écoutez Génération After, on vous attend, supporters du PSG sur RMC, 20h15. A tout de suite.
RMC, 20h22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Génération After ce soir avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Romain Canuti. Je vous rappelle qu'à 20h40, on sera avec un taulier de la meilleure défense de Ligue 1. Jonathan Grady, défenseur axe droit du RC Lens, sera avec nous.
L'un des défenseurs les plus sous-cotés de notre Ligue 1.
Eh ben, c'est une question qu'on lui posera. Est-ce qu'il le ressent ainsi? Vous nous appelez, supporter Lensois, au 32-16. Hein, bien sûr, vous pourrez poser vos questions à Jonathan. Tout à l'heure, Jonathan le Bordelais, faut-il le préciser.
Hein. On a des beaux invités quand même dans Génération After.
Très, très bien. Hein, invité un peu décalé,
ouais, mais
toujours, des joueurs qui parlent bien, qui ont des histoires à raconter en plus.
Football.
Ne survendez pas trop, messieurs.
Si, c'est un bon jeu.
C'est
un bon jeu.
C'est ça ton problème. T'es un Marseillais, mais tu t'enflammes pas.
C'est pas dans
le laissez-le.
C'est pour ça que tu préférais Villas-Boas à Tudor. C'est parce que t'es pas dans l'enflammate, t'es dans le football restrictif. Nous, on va aller vers l'avant.
Notre Kevin Diaz des raccourcis, on l'aime bien. Ah, il aime bien.
Messieurs, il saute ligne, Kevin Diaz.
J'ai beaucoup défendu Villas-Boas.
Le PSG est-il armé pour réussir son mois de février? Tiens, j'accueille Baudouin, supporter du PSG au 32-16. Romain, je donne la parole juste après. Salut Baudouin.
Ouais, salut les gars. Salut,
bienvenue.
Merci.
Comment va le royaume de Belgique?
Le royaume de Belgique se porte fort bien, mais moi je suis le roi de Jérusalem, c'est encore mieux.
Waouh.
Je suis assez inquiet moi pour le PSG. La série va être compliquée. Alors après, Paris, parfois, a le talent et le don de nous faire mentir, de nous voir. On peut les voir parfois quelconques, très quelconques, contre des équipes de milieu de tableau, arracher une petite victoire, et puis tout à coup, survoler les débats quand il y a quelque chose avec un peu plus d'enjeu qui se profile. Mais je suis quand même inquiet pour des raisons qu'on a tous vues. Hein. La défense, Kimpembe, qui est toujours sur le flanc, qui est en train de faire son retour, certes. Sergio Ramos, qui a quelques caravanes accrochées. Verratti, le retour, est-ce qu'il aura quelque chose de bien à nous montrer? Neymar, qui va nous refaire le coup du Festival de Rio.
Vas-y, Baudouin, finis.
Festival de Rio, la blessure, l'anniversaire de la sœur, ça tombe toujours à la même période, ça fait des années. Pour une fois, je suis d'accord avec M. Riolo, ce gars-là est une escroquerie. Donc, on a quand même quelques côtés positifs. On peut compter sur un Mbappé qui voilà, on ne peut pas de le présenter pendant 3 heures. On peut compter sur quelques forces vives, mais moi je suis quand même inquiet. Voilà, je suis quand même inquiet. On n'a pas une défense solide.
Que tu sois inquiet, c'est normal. Maintenant, est-ce que tu me permets de comparer le Paris Saint-Germain avec l'équipe de France? C'est-à-dire que déjà ils ont le même facteur X. Tu l'as nommé, Kylian Mbappé. Ouais. C'est-à-dire que c'est très difficile, et c'est pour ça qu'on met tous les formes, pour te dire la vérité, c'est très difficile de prévoir ce qui va arriver à l'équipe de Kylian Mbappé aujourd'hui. Parce que tu sais que même sur un contre, sur deux contres, en 3 minutes, il est capable de marquer 2 buts, de soutenir une pression intense, voire incommensurable, et de marquer 3 pénaltys en finale de Coupe du Monde.
De créer une peur chez l'adversaire.
Voilà, de créer aussi cette peur, comme dit Walid. Donc, c'est toujours difficile de dire, tiens, le PSG va se faire éliminer contre le Bayern, ou le PSG va perdre au Vélodrome. Il y a cette incertitude avec Kylian Mbappé notamment, tu peux aussi rajouter quand même Lionel Messi. Mais c'est clair que sur les signaux collectifs, on le dit, on
même
le répète.
Neymar,
bien sûr.
Baudouin et Kevin et Walid, vous allez me dire, Nico, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. J'ai une métaphore NBA. Voilà. En fait, pour moi, là, le PSG rentre en play-off et c'est comme s'ils avaient fini 6e ou 7e de leur conférence. Les signaux ne sont pas au vert. Ils ne sont pas sur un circuit favorable, mais c'est encore jouable. Et par contre, par rapport à ce que disait Walid sur le côté le mois décisif, c'est le premier mois décisif, le mois de février, parce que imaginons que Paris gagne tous ses matchs en février, c'est possible aussi, hein, comme tu le disais, Kevin, Kylian Mbappé peut décider de porter cette équipe et tout gagner en février, super. Mais si derrière il se plante au mois de mars, eh ben ça sera une saison ratée quand même.
Oui, mais déjà,
donc ils sont condamnés à réussir février.
Ouais, c'est
sûr. Mais ils sont condamnés à réussir février, mars, avril. Aimer.
Parce que le problème, en fait, quand je te dis c'est un mois charnière, Romain, c'est que si tu ne passes pas ces étapes-là, si tu perds contre le Bayern et tu te fais éliminer, quand tu vois qu'il y en a certains qui ont eu encore la blessure de la Coupe du Monde très très vive dans leur tête, s'il y a encore la Ligue des Champions, je sais pas comment ils vont faire pour être concernés pour la Ligue 1 sur la fin de saison. Si les matchs contre Monaco, contre Marseille se passent mal et que t'as encore Lens, Marseille, Monaco à portée de fusil sur les 10 derniers matchs, tu sais pas, peut-être que ça peut faire comme à l'époque de Tourelle, la fin de saison notamment qui avait été catastrophique. Et surtout en Coupe de France, si tu te fais éliminer contre l'Olympique de Marseille, ce serait un immense camouflet pour l'équipe de Messi, Neymar et Mbappé de se faire subtiliser encore une fois une coupe, parce que l'année dernière, faut pas l'oublier, mais cette équipe-là ne l'a pas gagnée. C'est le FC Nantes qui a gagné la Coupe de France.
Les gars, au 24 janvier 2023, là, quels sont aujourd'hui les joueurs que vous estimez à leur niveau au Paris Saint-Germain? Pour faire une petite revue d'effectifs rapide, je sais que Galtier est pas satisfait de ses remplaçants, ça on le sait. Il se plaint pas d'une profondeur de banc, mais il veut des recrues. L'équipe ce soir nous dit qu'ils vont chercher également dès cet hiver un attaquant droit côté Paris Saint-Germain.
À leur niveau,
plutôt que Skriniar dès cet hiver.
À leur niveau qui est attendu ou à leur niveau prime.
Exactement. Attendu au moins là, voilà.
Ok. Oh, bah écoute, il y en a pas tant que ça. Hein.
Danilo peut-être.
Ouais. Non mais t'as Nuno Mendes et Hakimi.
Et il revient bien sûr Nuno Mendes.
Oui mais. T'as vu ce qu'il fait hier? Bon, oui. C'est qu'une DH, ouais, etc.
Enfin, hier,
c'est
qu'une erreur.
Mais bon.
T'es pas inquiet pour Nuno Mendes, voilà.
Ouais, je suis pas inquiet pour Nuno Mendes. Je suis pas inquiet pour Hakimi non plus. Je suis pas inquiet pour Kylian Mbappé et Messi au niveau où on l'attend aujourd'hui en 2023. Maintenant, tout le reste.
En fait, le gros problème du Paris Saint-Germain, Nico, c'est que, en fait, on a eu des prestations individuelles en 2022. Et là, en 2023, il y a quand même eu une photographie différente. Moi, si tu me dis le Neymar 2022 ou le Neymar 2023, pour moi, sur la première partie de saison, il fait partie du chapeau 1 en Ligue 1.
par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il a fourni. Depuis qu'il est revenu en 2023, c'est catastrophique, tant dans l'attitude que ce qu'il fait. Son match contre Rennes, bon, hier, il met ses passes D, il met ses buts, mais pour moi,
ça a aucune valeur. Rennes, s'il prend rouge, c'est pareil.
Ça a aucune valeur. Verratti, la même chose. Verratti, pour moi, a été très bon en 2022. Depuis qu'il est revenu en 2023, c'est catastrophique. Strasbourg, Angers, et pourtant, je me bats énormément avec Kevin ou avec Daniel sur Verratti, mais quand il pleut, il pleut. Quand il fait beau, il fait beau. La réalité, c'est que Verratti, là, il est blessé et il a mal joué en 2023. Donc, quel joueur on va avoir? Marquinhos, on va voir quel joueur.
On arrive Baudouin, on a la parole dans un instant.
Y a pas
Marquinhos,
mal.
On peut compter sur lui, je pense.
Je sais pas. Moi, je sais pas. Dans le leadership, quand ça va mal se passer au Bayern, pendant 30 minutes, parce que tu vas avoir un temps faible contre le Bayern, c'est sûr et certain. Comment il va réagir? Est-ce qu'on va voir le Marquinhos qui tremble comme au Bernabéu l'année dernière, avec le Brésil, ou le Marquinhos qu'on a vu il y a quelques années? Moi, je suis désolé, mais plus ça avance, plus Marquinhos, moi, il m'inspire pas la confiance. Donc,
je suis pas d'accord sur Baudouin.
La question, c'est pas que individuellement, c'est aussi dans quelle configuration ils vont jouer, dans quel schéma tactique. Et malheureusement, Galtier, il n'a peut-être pas le choix que de faire des compos où il fait en fonction des forces vives présentes. Mais c'est vrai que la dernière fois, quand on voit un retour à trois défenseurs centraux, moi, ça ne me fait pas rêver avec Sergio Ramos et Danilo Pereira qui encadrent Marquinhos. Franchement, ça pulse pas. Alors certes, les latéraux doivent faire la navette, mais ça pulse pas. Et contre le Bayern, ça risque d'être compliqué.
Et le gros problème avec le Bayern, notamment la différence, Baudouin, c'est que en sortie de banc, différence est abyssale. C'est que j'ai encore vu le match contre Leipzig. Sur le banc, tu as des mecs. C'est Thomas Müller qui remplace Moussiala. C'est Kingsley Coman qui remplace Leroy Sané. C'est Sadio Mané qui peut remplacer Choupo-Moting ou Choupo-Moting qui remplace Sadio Mané. C'est Sabitzer qui va remplacer Goretzka. C'est à un moment donné, c'est Mazraoui pour Pavard. Au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais gagner une double confrontation, peut-être qu'ils vont le faire avec Mbappé, avec la qualité qu'ils ont devant. Aucun problème. Mais sur une double confrontation aussi exigeante, aussi énergivore en termes de, d'intensité, si c'est pour faire entrer Carlos Soler, etc., je suis désolé, mais la différence, elle va aussi se faire là. Et moi, je suis assez inquiet dans ce secteur-là, dans ce rapport de force.
Oui, mais
il faut que les ballons, ils lui arrivent à Mbappé.
Tout à fait.
Et à Messi, pareil, parce que Messi, c'est pas lui qui va venir aller chercher dans ses 30 mètres, on est bien d'accord.
Kevin, non, mais il y a quand même un problème au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que tu viens de citer un joueur qu'on apprécie tous aujourd'hui, qui est Choupo-Moting. Il était au Paris Saint-Germain, on avait l'impression que c'était le dernier des joueurs amateurs qui avait jamais touché un ballon de sa vie.
Et là, il est très utile.
Donc là, il est très utile.
Parce qu'il est servi aussi, les gars.
Et parce qu'il y a un coach aussi qui met déjà en place aussi. Ça aide.
Oui, d'accord. Mais
c'est surtout
que... Attends, Walid, des coachs au Paris Saint-Germain, il y en a eu quelques-uns quand même.
Il y en a eu quelques-uns.
Il y en a eu quelques-uns. Et on dit toujours que cette équipe, elle est inentraînable. Donc on ne va pas se répéter.
Non, mais là,
le problème, ce n'est pas que le coach, les joueurs. Le problème, c'est un tout. Et pour te répondre, notamment sur Marquinhos, j'ai laissé finir Baudouin. Je suis désolé, les gars. Marquinhos, c'est toujours pareil. Marquinhos, c'est un wingman. Tu vois, c'est un joueur qui est là pour accompagner peut-être un autre défenseur.
Ouais, mais c'est un capitaine. Il est capitaine.
Mais c'est pas. Et alors,
Kevin,
il est capitaine. Alors,
qu'il va faire?
Il va aller voir l'entraîneur.
Il est
leader. Moi, je suis pas capitaine.
Hein?
C'est pas lui qui a été frappé à la porte de l'entraîneur.
C'est 100 kilos club. Et il doit être leader.
D'accord, il doit être leader. C'est le problème du Paris Saint-Germain, c'est pas Marquinhos, les gars.
Ah, d'accord.
C'est ce que je voulais te répondre.
Okay,
et quand tu nous dis, je sais que ta génération pense que vous êtes les seuls à regarder les matchs,
non,
mais nous seulement on les regarde et en plus on les commente.
Mais pas du tout.
Je te dis de bien regarder. Ouf. Et que Marquinhos, ce n'est pas le problème du Paris Saint-Germain.
T'es satisfait du niveau de Marquinhos depuis le Real Madrid l'année dernière?
Mais quel depuis le... Il n'a pas été bon sur les six premiers mois?
Non.
Il n'a pas été bon à la Coupe du Monde?
À la Coupe du Monde, il n'a pas été bon. À chaque fois qu'il y a un centre, Kevin, ils sont pris à défaut, le Paris Saint-Germain.
D'accord.
À chaque fois.
D'accord.
Il y a que, c'est la seule équipe en Europe, tu vois les matchs,
d'accord,
contre n'importe qui, même contre la Goutte d'Or, encore une fois.
Non, arrête. À chaque fois qu'il y a un centre,
ils sont en difficulté,
Kevin. Tu as parlé de Marquinhos avec le Brésil, il n'a pas été bon à la Coupe du Monde?
Bah, c'est lui qui est fautif contre la Croatie.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est fautif de quoi? Il contre un ballon, le ballon il finit dans
d'accord,
le but. C'est ça être fautif.
Il y a un manque de sérénité. Il y a un manque de sérénité.
Il fait une très bonne
équipe. C'est pas un leader.
Donc là, c'est
pas un leader.
C'est faux.
Avec le PSG, je suis déçu.
Voilà. Baudouin, le mot de la fin pour toi pour conclure ce débat Paris Saint-Germain.
Simple. Au sujet de Marquinhos, et j'en discutais avec un très bon pote à moi qui est en train de m'écouter d'ailleurs et que je salue. Salut mon pote Camille. Marquinhos, s'il était si bon que ça, il y aurait des demandes de transfert.
Regarde sa fiche de paye, tu vas comprendre.
Il y a combien de clubs qui veulent nous acheter Marquinhos?
Il y a combien de joueurs en Europe, Baudouin, qui gagnent mieux que Marquinhos?
Comment? Pardon?
Il y a beaucoup de joueurs en Europe, tu crois, à son poste, qui gagnent mieux que Marquinhos?
Mais attendez, les transferts, ça se fait comment? Faut allonger les billes.
C'est ce que dit Kevin, c'est qu'il a un salaire tellement confortable qu'il n'y a pas forcément de gros clubs qui sont prêts à
se faire du PSG qui sont convoités. Ça, c'est l'entourloupe qatari, hein. Ça, c'est l'entourloupe qatari, hein. Et ils se la mettent eux-mêmes, hein, les amis qatari en faisant ça, hein. Ils surpayent des joueurs.
Tout à fait.
Qui devraient jamais porter le maillot.
Ça reste un très bon joueur. Et tu sais, Marquinhos.
Allez, on finit, les gars.
Et je finis avec ça, mais le dernier défenseur central qu'on a énormément critiqué. Pas moi, hein, mais que souvent les gens ont beaucoup critiqué au Paris Saint-Germain, c'est Thiago Silva. Ouais,
bah regarde depuis que Thiago Silva est parti, regarde Marquinhos.
Mais d'accord, mais c'est ce que je te dis. Voilà, je te dis qu'une défense centrale, c'est une complémentarité.
Sauf qu'il devait prendre le leadership.
Mais qui a dit ça?
Voilà pour le Paris Saint-Germain, les gars.
Non, Quand tu donnes le capitana,
tu viens de dire un truc qui est ultra faux. C'est-à-dire, une défense centrale, c'est une complémentarité. C'est comme si quelqu'un qui est gaucher, il se blesse, tu dis bah il a qu'à faire tout du droit.
Mais c'est pas la question de jouer avec des pipes.
Je te parle d'une complémentarité dans une défense. Tu viens de dire un truc qui est ultra faux. C'est pas parce que Thiago Silva est parti que Martinez doit devenir le leader.
Si c'était le chemin qu'il devait avoir.
Ça voudrait dire qu'au Real, si Ramos était parti avant dans son prime, alors Varane aurait dû devenir le nouveau Ramos.
Mais
ça n'existe pas. Chacun a ses qualités et au contraire, il faut voir une défense centrale comme une complémentarité.
C'est un sujet qu'on développera.
Mais c'est pas pour ça que c'est de la faute de Marquinhos.
Notre invité dans 10 minutes, Jonathan Gradi.
Il est moins bon parce qu'il n'a pas la complémentarité.
Merci Baudouin d'avoir fait le 32-16. Tu reviens quand tu veux dans Génération After dans un instant, les gars. La vie de Walid, intitulée ainsi, se faire piller, c'est le trophée du club intermédiaire. Très rapidement pour vous dire que Leipzig est en train d'étrier Schalke à Schalke, nous le firent. 6 buts à 1 et le Bayern, coup d'envoi dans quelques secondes face à Cologne. Leipzig revient à 3 points du Bayern. A tout de suite, c'est Génération After sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Walid Acharchour, Kevin Diaz, Romain Canuti, Génération After. Comme tous les soirs de 20h à 22h, dans moins de 10 minutes, on sera avec notre invité du soir, Jonathan Gradi, défenseur central du Racing Club de Lens. Il nous parlera justement de la complémentarité essentielle en charnière centrale. Les gars, dans un instant, l'avis de Walid. D'abord, quelques infos mercato à vous donner. Ludovic Ajorc, qui quitte Strasbourg. Confirmation pour s'engager avec Mayence, 12e de Bundesliga. Contrat jusqu'en 2026. Montant du transfert pas dévoilé, qui tournerait autour des 6-7 millions d'euros. Pour Ludovic Ajorc, une saison. Voilà, il a fait son histoire à Strasbourg.
Il va avoir un beau contrat, il le mérite.
Un championnat qui peut lui correspondre également. Info RMC Sport également, Fabrice Hawkins, c'est notre reporter qui me dit là que l'OM et Lorient sont tombés d'accord sur les bases d'un transfert de Terem Moffi, 23 ans, qui pourrait atteindre les 20 millions d'euros bonus compris. Bamba Dieng, lui, ferait le chemin inverse. Il n'est pas contre rejoindre Lorient malgré les offres en Angleterre. Il y a aussi des offres pour Moffi en Angleterre. Nice également pour Moffi. Le joueur ne s'est pas encore prononcé. Les deux clubs, en revanche, Marseille et Lorient, sont tombés d'accord. Pour Dieng, ce serait un transfert également. Il ne serait pas inclus dans la transaction Moffi à Marseille. On serait aux alentours de 8 millions d'euros pour Dieng. À Lorient, le projet Lorienté intéresse Bamba Dieng. Les gars, réactions.
Précisons quand même juste que c'est pour baisser, parce que si tu intègres le Bamba Dieng dans la transaction, tu ne baisses pas le prix de vente de Moffi. Et pourquoi c'est intéressant pour Lorient de baisser le prix de vente de Moffi? Parce qu'il y a un pourcentage à reverser à son club belge, je crois que c'était Courtrai. Et donc du coup, Lorient donnera moins d'argent. D'accord. C'est ce qu'on appelle un transfert Mathieu Bodmer. Tu sais, c'était le cas quand il était parti de Lille à Lyon, on avait surévalué du côté, étrangement les deux clubs avaient les mêmes actionnaires d'ailleurs, on avait surévalué le transfert de Kader Keïta, je ne sais pas si vous vous souvenez de Kader Keïta qui a été évalué à 18 millions d'euros parce qu'il fallait que Lille paye une partie à Caen pour Mathieu Bodmer, et c'était je cite Mathieu Bodmer comme ça. Vous lui en reparlerez quand il viendra sur le plateau.
Ce sera confirmé bien sûr ces informations-là, l'arrivée de Terem Moffi à Marseille, de Bamba Dieng à Lorient. Finalement tout le monde est content.
Exactement.
Bien pour les deux parties.
Ce serait un immense coup.
Ouais, exactement.
Pour les deux, hein. Pour Marseille aussi, évidemment.
Ouais, bien sûr. Pour Marseille, je pense qu'il faut se libérer de Bamba Dieng. Et pour Bamba Dieng, je pense qu'il faut se libérer de Marseille parce que on a bien l'impression que, de toute façon, ça va être compliqué. Moi, je pense
et
que c'est
un. Et pour sa progression, pour.
Bien sûr. Moi, je pense, de toute façon, que c'est un joueur qui a énormément de qualité, mais qui doit encore beaucoup, beaucoup progresser et qui n'est pas prêt aux exigences de jouer à l'Olympique de Marseille. Ça fait plusieurs fois.
Surtout sur les dernières semaines.
Bien sûr. Ouais, tu m'excuseras de l'avoir vu un peu avant.
Oui,
mais bon.
Tu avais juste là-dessus, mais ouais. Je te dis juste que pour moi, sur les dernières semaines, on a vraiment l'impression que le gamin a lâché.
Voilà. Bon, ça malheureusement, ça peut arriver, ça ne doit pas, mais ça peut arriver. Maintenant, ça va lui faire du bien d'aller à Lorient avec un excellent entraîneur qui aura sûrement une autre approche et qui va pouvoir vraiment le faire progresser en la personne de Régis Lebris. Et pour Marseille, franchement, récupérer Terem Moffi qui lui aussi a récupéré et retrouvé son niveau d'il y a 2 ans, parce que l'an dernier il était quand même un petit peu en difficulté à un moment, mais c'est un attaquant super, c'est un mec qui court, c'est un mec qui va parfaitement passer dans le système de Tudor, parce que ça court, ça presse.
Et la configuration aussi géniale, c'est le challenge proposé, le fameux projet qu'on propose à Terem Moffi.
Moi j'ai rien contre le mot projet, non, non, hein,
c'est justement, c'est la bonne étape pour lui.
Je le donne parce qu'il n'est pas titulaire, on n'arrive pas à l'OM en lui disant tu vas tout jouer, mais tu vas pas être non plus la doublure d'Alexis Sanchez, parce que ce qui est évoqué, c'est vraiment la possibilité aussi que Moffi soit en pointe avec Alexis Sanchez juste en dessous. Voilà. Et enfin, alors là-dessus, c'est là où c'est un transfert totalement gagnant, c'est que Alexis Sanchez, il en avait marre d'évoluer en pointe. Lui, il réclamait de jouer derrière un attaquant. Il disait, moi, je veux jouer face au jeu, pas dos au jeu. Et donc là aussi, tu t'évites.
Pourtant,
du côté
de l'OM.
Excellent. Ah, il est excellent. Mais tu sais ce que c'est le mental d'un joueur. Oui. Tu lui fais tenir en lui disant, t'inquiète, on va trouver quelqu'un. Et si tu n'y arrives pas, au bout d'un moment, il peut lâcher aussi. Et là, du coup, tu vas avoir un Alexis Sanchez gonflé à bloc parce que c'est un compétiteur et que Alexis Sanchez, il a joué, il a vu Terem Moffi au Vélodrome et que là, on lui dit, bah, tu vois, ce mec, enfin, c'est pas fait, mais quand ça va être fait, de lui dire, tu vois, lui qui était en face, là, qui nous a mis ce but sur corner, maintenant, bah, il va être dans ton équipe. Ouais. Et puis, Alexis Sanchez, il va faire des bons, hein. Il attend que ça.
Et puis, Moffi, il est en grande forme. L'année dernière, c'était un peu plus compliqué, mais il y a 2 ans déjà, oui, il avait été très, très bon.
Exactement.
Et là, il a retrouvé un coach qui met, vraiment en lumière ses qualités. C'est l'attaquant moderne par excellence. Et il pèse sur les défenses, il va très vite, il a une qualité de finition.
C'est un mec à 12 buts cette saison.
C'est assez
quand même
énorme.
Déjà,
ouais. Et pour parler
deuxième meilleur buteur.
Il peut aussi rater 2 occasions.
Oui, c'est bien pas, évidemment, voilà, comme tous les attaquants. Mais pas comme tous les attaquants, mais en tout cas, on parle de Terem Moffi.
Ouais, hein,
on parle
pas de Walid, on va pas lui mettre de pression.
Non, mais
quand l'OM va chercher un attaquant qui a des origines africaines en Bretagne.
Ah, Didier Drogba?
Voilà, ça ouais. Se passe des fois.
Oula,
non, mais
ouais,
c'est là.
Vite.
Non, je rigole. Non, mais
il a commencé par dire, on va pas lui mettre de
ouais,
pression.
On va pas lui mettre de pression.
Ouais, donc après ça, tu peux tout dire, en fait. Ouais.
Nico, on va pas lui mettre de pression.
C'est l'essence
mais si vous pouvez
venir
avec le ballon d'or, ce serait pas mal.
C'est l'essence même de l'Olympique de Marseille. C'est être un coup de projecteur. La définition de ce club-là, c'est prendre un joueur comme Terem Moffi, comme avant lui Didier Drogba, comme avant lui Franck Ribéry, et de lui mettre des projecteurs dessus, qui fait que tu deviens quelque chose d'autre. Malheureusement, Mamadou Niang, il n'a pas eu derrière ces gros clubs comme Ribéry et Drogba, mais derrière, on te met ces projecteurs-là, et derrière, tu es totalement un autre homme.
Après, Kevin,
et
que tu sois cohérent,
Moffi, il a ce profil-là.
Tu lui as reproché de ne pas s'enflammer. Il s'enflamme un peu.
Oui.
Non,
mais là, tu vois, du coup,
c'est ce qu'on veut.
Mais c'est ça la qualité d'un entraîneur, c'est d'aller chercher en lui, tu vois, quelque chose, comme a fait Régis Lebris.
Mais de tirer le meilleur de Romain Kelly.
Il faut pousser Romain un peu vers le haut.
Pour revenir plus globalement sur Marseille, si tu fais Malinovski et Terem Moffi en janvier, avec l'équipe que tu as.
T'as Ilic apparemment dans
ouais, qui pourrait arriver, mais c'est l'été
ouais,
prochain.
L'été prochain,
ouais, mais quand même, c'est dans les tuyaux.
Mais là, tu te donnes quand même les ambitions pour le podium. Bien évidemment, pour moi, l'Olympique de Marseille, il y a un match par semaine, doit faire deuxième sur la deuxième partie de saison. Mais si le Paris Saint-Germain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Un grand parcours en Ligue des Champions, une énergie qui est un peu diluée.
Ou un parcours catastrophique.
Ou un parcours catastrophique qui peut te tuer mentalement. L'Olympique de Marseille, quand on voit les. On en discutait un petit peu avec Kevin, l'effectif et l'expérience que tu as dans cet effectif quand même, des joueurs qui ont joué dans des grands clubs, et Tudor qui est en très bonne forme dans son coaching depuis un bon petit bout de temps, ça laisse quand même des perspectives très très positives.
Je pense à une phrase que j'ai lue hier de Zinchenko avec Arsenal, qui disait « Moi je suis arrivé, et quand je leur disais il faut jouer le titre, ici on n'est pas là pour jouer la qualif en Ligue des Champions, on lui a un peu rayonné dans le vestiaire au début, et qu'aujourd'hui quand il dit on va jouer le titre, tout le monde est très très sérieux. » Mais je pense que quand tu recrutes des joueurs comme Alexis Sanchez, quand tu recrutes des entraîneurs, même comme Igor Tudor, ils vont pas te le dire. Hein. Mais là ils sont à 5 points du PSG, ils voient comme nous le calendrier du Paris Saint-Germain au mois de février, ils se disent, et on va en parler dans pas longtemps, mais si on peut leur mettre un premier coup sur la tête en les éliminant de la Coupe de France, et ensuite juste profiter de ramasser les miettes, parce que certes on est éliminé, mais on va essayer de tout donner le week-end pour aller chercher les points. Je peux te dire que eux, leur objectif maintenant, hein, je pense aux joueurs de l'OM, c'est pas la deuxième place.
Hein. Rapidement les gars, on parlera de Marseille tout à l'heure les gars, on parlera de Marseille dans quelques minutes. Information de nos camarades de l'équipe, Loïc Tanzi, notre ancien collègue, qui nous dit que Jeffrey Adelaide ne signera finalement pas au Séville FC. Hein. Il devait être prêté au club espagnol dirigé par Sampaoli, retoqué à la visite médicale. Il n'est pas pas blessé, il n'a pas de douleur, mais il n'est pas prêt à 100% comme Séville attendait absolument. Il lui fallait quelques semaines encore pour être à 100% et Séville a besoin tout de suite d'un apport offensif.
Séville, attention, Séville, ils font le coup des fois. Le coup de la visite médicale un peu bizarre.
Mais les échos que j'ai sur Reine Adélaïde, c'est que même aux entraînements, c'est compliqué.
Bah même en match, hein, franchement.
Non, mais d'accord, mais mentir, au-delà des matchs, saison, je te parle des entraînements, les échos sont négatifs sur son état physique.
Moi, je vais vous dire la vérité, au vu de ce qu'il a vécu, impossible pour moi d'être aussi catégorique avec Jeffrey Nadelaïd, parce que franchement, d'avoir deux blessures comme ça, forcément.
En un an et demi de rupture des ligaments. Ouais. Voilà, les gars, pause dans un instant. Jonathan Grady sera avec nous, défenseur central du RC Lens. On va passer du temps avec lui. Vous nous appelez supporter lensois et pas uniquement lensois d'ailleurs, au 32-16. Posez vos questions à Jonathan. Le Bayern est mené 1-0. Après 10 minutes de jeu, but d'un ancien joueur de Ligue 1, Montpellier 1, Elias Skiri.
Il fait une très belle saison.
1-0 pour Cologne sur la pelouse du Bayern Munich. Le RB Leipzig a bien étrié Schalke 04 6 buts à 1. Génération After, la suite dans un instant avec Jonathan Grady. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After,
Nicolas Jamain.
Génération After pour RMC, merci d'être avec nous. Il est 20h45 avec Kevin Diaz, Walid Acharchour et Romain Canuti. On est ensemble jusqu'à 22h. À 22h, Daniel et Gilbert prendront le relais et Flo Gautreau sera avec eux également. Notre invité, messieurs, dans Génération After, il est un des tauliers du deuxième de Ligue 1, il est lensois. Jonathan Grady est dans Génération After. Salut Jonathan.
Salut, bonjour.
Très heureux de t'accueillir sur RMC.
Merci.
Je rappelle que tes supporters peuvent appeler au 32-16 pour te poser des questions, évidemment. Jonathan, un homme qui a eu le très bon goût de naître en 1992 à Talence. Magnifique.
C'est ça.
Commune. Comme moi, mon cher Jonathan. Donc voilà, on a un lien. Je voulais dire quand même.
Mais
à Bagatelle, toi aussi?
Ouais, moi aussi, Bagatelle. Ouais.
C'est superbe.
T'es né en 1992?
Non, malheureusement, je suis pas né en
1992. Ah, je me disais.
Quel grand écart.
T'es bien conservé, mais quand même.
Je dois Fofana et Gradit dans son parcours, c'est magnifique.
Exactement. Jonathan, tu vis une période de bonheur absolu, j'imagine, avec le Racing. Hein. Tu es là où il faut être en Ligue 1, the place to be. Sur l'échelle du bonheur dans une carrière professionnelle, tu mettrais quelle note sur 20 là, ton épanouissement?
Est-ce que tu as ton prime?
Ouais, je pense que c'est difficile de mettre en dessous de 20. Hein. On va pas se le cacher parce que c'est une saison qui est fabuleuse au-dessus de nos attentes aussi, parce qu'on vit une saison formidable. Et ça fait déjà 3 saisons qu'on est remonté en Ligue 1. Et bon, ça se passe super bien depuis la remontée. Mais c'est vrai que cette saison, c'est un peu l'aboutissement aussi du travail de fait depuis des années. Donc forcément, ouais, ça fait super plaisir et c'est que du bonheur.
On a loué votre travail déjà depuis plusieurs saisons. Tu es arrivé en 2019 en provenance de Caen à Lens. Tu as vu la progression. Tu es un des rares à avoir vécu la montée encore présent dans l'effectif avec ton grand pote Florence Autocar. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence cette saison par rapport à la précédente? C'est quoi la valeur ajoutée?
C'est compliqué à dire, mais c'est, je pense, une forme de maturité aussi, parce que on a l'expérience justement du fait d'avoir titillé un peu les gros là, les deux saisons passées. Et, on a craqué à un moment donné. On a eu des périodes un peu difficiles qui nous a fait échapper une qualification en Coupe d'Europe. Donc on sait ce qu'il faut pas reproduire. Après, on ne sait pas si on va réussir à le réaliser encore au mieux. C'est encore un marathon, mais on vient de finir la phase aller. Donc on sait la Ligue 1, c'est un marathon, ça va être compliqué de tenir comme ça, mais on va tout faire pour en tout cas, et on espère justement pas réitérer les années précédentes et pouvoir rêver jusqu'à la fin de saison.
Walid et après Romain, vas-y.
Salut Jonathan, moi salut. Je suis un grand grand fan du RC Lens et de ce que vous faites sur les dernières années. Tu l'évoquais, quelles sont les choses à ne pas reproduire pour rester sur cette dynamique-là? Je sais qu'en 2023, il y a eu cette magnifique victoire contre le Paris Saint-Germain, mais il y a eu aussi des matchs un peu plus compliqués contre Auxerre, contre Nice aussi en deuxième mi-temps. Est-ce que ce mini temps faible dans le jeu, quand ça se passe pas comme vous l'entendez, comment réagir? Parce que c'est vrai que sur les dernières années, les temps faibles ont été compliqués à gérer. C'est quoi, raconte-nous un petit peu la marche à suivre pour ne pas reproduire ça.
Bah déjà, je pense que on est beaucoup plus hermétique qu'on l'a été les saisons précédentes. C'est vrai que on a un jeu alléchant, les gens prennent beaucoup de plaisir à nous voir jouer. On essaie de garder cette image-là d'équipe spectaculaire, mais on arrive aussi à être beaucoup plus hermétique, à moins être un peu foufou comme on dit sur notre pressing aussi, aller chercher très haut les équipes. Alors on continue à le faire parce que c'est notre marque de fabrique. Il faut garder ces idées de jeu qui qui nous plaisent à nous en premier, mais qui plaisent à beaucoup de personnes. Mais il faut aussi savoir être à un moment donné, comme tu l'as évoqué par exemple, contre une équipe comme Auxerre qui était très regroupée derrière, à savoir aussi garder un équilibre défensif pour pas se faire piéger. Je pense que, à la différence des autres saisons, on arrive à justement à pas tomber dans le piège de l'adversaire en ayant beaucoup de possession et d'avoir des transitions contre nous qui nous faisaient mal les années précédentes. Et pour le coup, pour le moment, on touche du bois, mais c'est vrai que ça se passe plutôt bien. On arrive à bien gérer, on a trouvé un équilibre avec notre milieu de terrain aussi qui reste toujours aussi en équilibre. On n'est plus à trois derrière, donc je veux dire c'est un tout. Et il y a eu quelques réajustements aussi défensifs qui nous permettent d'être plus solides.
Est-ce que tu nous dis, Jonathan, là, sur ta première réponse, que vous l'avez, entre guillemets, mal vécu, parce que vous étiez dans la course au cinquième place sur ces deux dernières saisons, et ça s'est pas fait, même si vous étiez voilà à la course avec l'OM, Rennes notamment. Quand ça s'est pas fait, est-ce que là, ce que tu nous dis, c'est que oui, c'était super, c'est génial de faire cette saison, vous savez d'où vous venez, notamment sur la première saison, vous étiez promu, mais tu avais... Voilà, vous aviez à la fin de saison, vous vous dites mince, on est passé à côté de quelque chose et ça vous sert aujourd'hui ?
Oui, forcément que en fait c'est beaucoup l'engouement extérieur qui nous ont fait dire oui, vous allez jouer l'Europe. Donc au final, forcément, on se force à y croire au début. C'est vrai qu'il y a eu malgré tout c'était que du bonheur ces deux dernières saisons parce que on avait un budget qui était beaucoup plus inférieur aux équipes qui étaient avec nous, qui l'est toujours d'ailleurs, mais on venait juste de remonter. Donc en début de saison, de là à dire qu'on aurait titillé les gros, ça aurait été de vous mentir de croire à ça. Mais pour le coup, vers la fin, quand il reste 10, les 10 dernières journées, et voir qu'on est encore en haut et qu'on peut les titiller, forcément que à la dernière journée, quand on se retrouve 7e, c'est frustrant parce que on a tout mis de notre côté pour être à 100% pour pouvoir prétendre à une place. Et comme je l'ai dit, avec l'engouement aussi extérieur, c'est-à-dire que le RC Lens forcément fait plaisir à voir, donc il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que le club réussisse, leur y réussit, mais ça aurait été l'apothéose d'avoir une Coupe d'Europe, donc on n'a pas envie de décevoir, et c'est vrai qu'on avait été un peu déçus, malgré la saison qui était pour nous extraordinaire aussi, mais on avait été un peu déçus de ne pas avoir la cerise sur le gâteau avec la Coupe d'Europe.
Jonathan Grady est avec nous dans Génération After. Jonathan, tu es l'axial droit de la meilleure défense de Ligue 1, ça c'est une immense satisfaction j'imagine pour vous, avec tes compères Facundo Medina et Kevin Danso. 13 buts encaissés en 19 journées, c'est phénoménal.
On peut rajouter Brice Samba et Abdoul Samed qui font un travail énorme.
C'est forcément un travail collectif.
On peut rajouter les 5 autres joueurs qui n'ont pas été cités.
Mais
ceux qui sont sur le banc.
Ceux qui
gonflent les ballons.
Qu'est-ce qui fait votre complémentarité à vous trois, Medina, Danso et toi, Jonathan?
Bah déjà, c'est le fait d'avoir évolué ensemble durant deux saisons. C'est vrai que la première saison, on était... Fac venait d'arriver d'Argentine, Facundo Medina, et on avait Loïc Badé qui était un joueur très prometteur aussi, mais qui était parti dès sa première année à Rennes. Donc on manquait un peu de stabilité, et c'est vrai que là on a retrouvé une forme de stabilité tous les trois derrière, on s'entend très bien. Il y avait aussi la langue aussi qui était compliquée, parce qu'il y en avait un qui était espagnol, un qui parlait anglais et un qui était français, qui ne savait pas parler ni espagnol ni français, donc forcément c'est plus compliqué. Mais après oui, c'est à force de jouer ensemble, de créer des automatismes, on est complémentaires aussi parce que on a Kevin Danso qui est un joueur très physique et qui est dans le duel et qui est dans la couverture aussi de par sa vitesse. On est avec Fak et moi des profils de relanceurs qui apportent un surnombre offensivement. Et on sait que le coach aime que ça reparte de derrière. Il nous fait énormément confiance. Il nous donne beaucoup de responsabilités au niveau du jeu.
Vous avez une grande liberté également. C'est ça aussi la marque Franck Haise. Hein. On te voit régulièrement partir dans la déchevauchée, balle au pied, prendre des risques aux alentours de la surface de réparation. D'ailleurs, ton surnom, c'est la perceuse. c'est pour ça?
Ouais, j'espère que c'est pour ça.
Belle question.
Oui. Après, comme...
bien renseigné, monsieur.
Comme tu l'as dit, c'est vraiment les idées du coach, et nous c'est que du bonheur, comme je l'ai dit, quand on a un coach qui nous demande de pas balancer, de repartir de derrière. En fait, il essaie de tirer chaque individualité, le meilleur de chaque individualité, de par ses qualités. C'est vrai que moi je suis un défenseur qui aime relancer, qui aime repartir de derrière, qui aime forcément prendre la balle, créer un décalage. Fak, c'est pareil aussi. au niveau de la passe, au niveau de sa conduite, etc. Donc voilà, c'est un coach qui nous permet de créer ça. C'est vrai que je l'ai dit assez souvent, forcément ça rejaillit sur nos performances individuelles, mais si on a un coach qui nous demande de balancer tous les quatre matins et juste d'être costaud défensivement, on va l'être, mais on prendra forcément moins de plaisir.
C'est intéressant ce que tu nous dis, parce que tout à l'heure j'ai essayé d'expliquer à Walid qu'une défense centrale c'était de la complémentarité, et que
même en interview tu m'envoies des pics maintenant,
et que c'était pas si facile de sortir un défenseur central d'une paire de défenseurs centraux pour dire qu'il est moins bon, etc. Mais on va pas te demander ton avis sur la défense du Paris Saint-Germain. Moi, je voudrais juste insister.
Pourquoi pas?
Non, on va pas.
Je pense que Marquinhos, Jonathan. Marquinhos, c'est un modèle ou pas, Marquinhos, pour toi?
Ouais, franchement, ouais, c'est un super joueur. Il a des qualités extraordinaires. C'est vrai que cette saison, il est peut-être un peu moins bien.
D'accord,
et moins
merci, Jonathan.
Les autres saisons, on va pas se cacher, mais ça reste un très très grand joueur. Et c'est un exemple pour tout le monde, pour tous les
défenseurs. Je suis d'accord avec Jonathan, gratuit.
Moi, je disais juste, Jonathan, qu'il était moins bon peut-être, mais c'était surtout depuis le départ de Thiago Silva, qui est une paire qui lui correspond parfaitement, moins que la paire avec qui il évolue aujourd'hui. Voilà ce que je disais.
Ça peut être une raison aussi. C'est vrai qu'une, comme tu disais, une charnière, c'est important de vraiment parler de binôme ou même de trois joueurs quand on est dans une défense à trois. C'est vraiment très important, parce que s'il n'y a pas de complémentarité, un défenseur central, il a beau être très bon.
Mais tu as besoin quand même, Jonathan, d'avoir un leader dans la défense, non? Surtout en plus avec quand t'es capitaine. Et moi, c'est ce que je reproche un petit peu.
Et moi, ce que je disais avant de te laisser.
On reste relance, les gars.
Non, mais pour le coup, ouais. tu seras plus légitime que nous en tant que défenseur central. Mais moi, je disais qu'on ne se décrète pas leader. On ne se décrète pas leader. C'est soit tu l'es, soit tu l'es pas. Donc que quelqu'un parte et de dire maintenant c'est toi le leader. Mais si tu l'as pas en toi, c'est pas très grave. C'est juste qu'il faut trouver un autre leader pour remplacer.
Jonathan, par contre, ombre au tableau. Désolé, 100 matchs avec Lens. C'était contre Brest dimanche soir.
Venir.
Zéro but. Voilà. Zéro but, ouais, Jonathan. Alors là, franchement, explique-nous comment tu fais, quoi.
Bah, c'est vrai, j'ai pas beaucoup de réussite. Alors déjà, je veux pas me trouver d'excuses, mais je monte pas sur coup de pied arrêté, donc déjà ça m'enlève pas mal de chance pour un défenseur. Et je manque de réussite au niveau de mes frappes, elles sont vraiment pas belles à voir. J'espère que vous avez pas fait de montage vidéo, parce que c'est pas beau à voir. Donc c'est à moi de le coach.
En
me
fait,
demande
c'est parce que tu perces les ballons en fait, la perceuse.
Ouais, c'est vrai que je préfère donner que. Je préfère donner une bonne passe que mettre une belle frappe, mais pour le coup, le coach m'a demandé là de travailler mieux, de travailler un peu plus à l'entraînement les frappes de balle. C'est vrai qu'un coach demande à son défenseur central de travailler devant le but, donc ça veut dire que j'ai encore beaucoup de travail.
Jonathan, ton grand ami à Lens, Florian Sotoka, a prolongé, on l'a pris aujourd'hui jusqu'en 2026. Il était en fin de contrat en 2024, comme toi. Tu en es où? Tu vas prolonger, on est d'accord?
C'est compliqué à répondre. C'est vrai que le club a très bien travaillé. Il essaie de prolonger plusieurs cadres, plusieurs joueurs importants. Et c'est vrai qu'ils sont rentrés en contact avec mes conseillers. Donc voilà, moi j'ai 30 ans, j'ai une carrière un peu atypique. Donc forcément, c'est un moment important de ma carrière, le plus important. Donc il faut bien réfléchir, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver mieux que Lens actuellement, et c'est vrai que je suis tombé vraiment amoureux de ce club. Donc j'espère que le club et mes conseillers trouveront un terrain d'entente.
Je voudrais justement revenir après la pause sur cette carrière atypique.
On en parle avec Jonathan Grady, Kevin Diaz, Wade Cherchou, Romain Canuti. Jonathan Grady, notre invité dans Génération After. Tu peux rester encore 5 minutes avec nous, Jonathan, c'est
oui,
pas un
oui,
problème.
Avec plaisir.
Très
avec
bien,
plaisir.
Merci d'être avec nous sur RMC. On revient dans quelques secondes. Le Bayern est toujours mené 1-0 par Cologne après 27 minutes de jeu, 1-0 pour la Lazio face au Milan après 11 minutes en Serie A. À tout de suite dans Génération After sur RMC.